France Musique. C'est l'été sur France Musique.
Et nous l'avons appris hier soir, Charlie Watts, le batteur britannique du groupe mythique des Rolling Stones, est mort à 80 ans à Londres hier. Avec Mick Jagger et Keith Richards, il faisait partie des piliers de la formation encore active. Une exposition de Rolling Stones Unzipped a lieu depuis quelques semaines en ce moment au Stade Vélodrome de Marseille. Notre journaliste Marie Jiquel y était, l'occasion d'écouter Martin d'Argenlieu, le directeur général du lieu, qui a organisé cette exposition. Il nous parle de ses musiciens et du talent unique de Charlie Watts.
Tous les grands artistes de blues le diront, on était connus, on était juste entre nous dans notre communauté noire américaine, et les Britanniques nous ont fait complètement exploser. Donc c'est le blues, et le blues, alors le jazz aussi, parce que Charlie Watts c'est un batteur de jazz, donc il a vraiment la batterie de jazz, il a toujours eu cette technique là mais je pense que les influences classiques, ils en ont de partout. Ils ont un degré d'exigence sur la musique. C'est pas au départ des grands musiciens, mais c'est des travailleurs.
L'exposition de Rolling Stone Unzipped est à voir encore quelques jours jusqu'au 5 septembre au Stade Vélodrome de Marseille. Charlie Watts, donc, le batteur britannique du groupe des Rolling Stones, mort hier à l'âge de 80 ans. Il est né le 2 juin 1941 à Londres. Il vient à la musique par le jazz. C'est son voisin Dave Green qui l'initie à 13 ans. On les entend d'ailleurs tous les deux ici dans ce titre Faction, un concert de 2010 avec le Big Band de la radio danoise. Ils formeront 30 ans plus tard le quartet The ABCD of Boogie Woogie, un genre d'ailleurs des années 30 et 40 que Charlie Watts aime tant. Il était membre des Rolling Stones depuis 1963 avec le leader Mick Jagger et le guitariste Keith Richards. Charlie Watts faisait partie donc des plus anciens membres du célèbre groupe de rock qui a vu défiler Mick Taylor, Ronnie Wood ou encore Bill Wyman.
We're selling our music back to American boys who probably never even heard of the people who we copied half of it from. This was in the beginning. We're selling our influences back, our way of doing it. Maybe it's more acceptable.
Cette musique, en réalité, nous la rendons aux jeunes Américains qui n'ont probablement jamais entendu parler des artistes que nous avons copiés au début. C'est ce que nous vendons. C'est une influence, c'est une façon de faire. Entré donc dans le groupe en 1963, Charlie Watts, dont nous venons d'entendre la voix, il avait mené en parallèle une carrière dans le jazz, la musique de son adolescence et sa passion permanente. Il précisait d'ailleurs qu'il aimait en jouer, mais qu'il n'était pas jazzman. Il ajoutait de façon modeste « Ma vie professionnelle m'a amené ailleurs, mais je n'en ressens pas la frustration. Et chaque fois que je le peux, je retourne vers cette musique. » Après la disparition de Charlie Watts hier, une autre disparition, sa vie, c'était jouer et enseigner. Le trompettiste Pierre Dutot nous a quittés à l'âge de 75 ans. Un article à lire sur francemusique.fr, la disparition donc d'un grand pédagogue, figure du CNSM de Lyon. Il est mort des suites d'une maladie, Pierre Dutot. Ceux qui l'ont connu, comme son élève, le trompettiste David Guerrier, pleure aujourd'hui. Une personnalité solaire, bienveillante, qui avait toujours 1000 projets. Un professeur adoré donc, mais aussi concertiste réputé, Pierre Dutot avait fondé l'ensemble de cuivre Hexagone, où il avait développé une action pédagogique reconnue, donné de nombreux récitals et masterclass en Chine ou au Mexique, par exemple. Des escapades qui lui avaient forgé une solide réputation à l'international. Le trompettiste avait participé également à l'enregistrement de plus de 80 disques. Pierre Dutot avait pris sa retraite en 2005, mais pas pour autant déposé sa trompette. Et tout de suite, direction l'Opéra de Paris, à 7h43. Sa bibliothèque présente la première grande rétrospective consacrée à Camille Saint-Saëns. Une exposition fabuleuse, chapeautée par la Bibliothèque nationale de France, qui présente plus de 200 objets du compositeur, pianiste et organiste. L'occasion de redécouvrir qui se cache derrière le créateur du Carnaval des animaux et de la danse macabre. Un enfant prodige, voyageur, polyglotte, le premier compositeur de musique de film, une superstar mentionnée quotidiennement par les journaux de l'époque. Marie Jiquel a tenté de glaner tous les secrets livrés par cet événement à ne pas rater.
Et en découvrant ces secrets distillés par cette exposition, on a l'impression que Camille Saint-Saëns a vécu plusieurs siècles. De sa jeunesse et son plus grand regret, ne pas avoir rencontré Chopin car son professeur l'en interdit, à sa vieillesse et sa collaboration avec Sacha Guitry, Marie-Gabrielle Sorel, la commissaire de l'exposition.
Dès l'âge de 2 ans et demi, il commençait à mettre ses mains sur le piano. Hein, il a dit, dès l'âge de 30 mois, il savait, paraît-il, parfaitement lire ses notes. Et parallèlement, il composait. Il a fait un début de carrière tout à fait prodigieux. Et on a dit par la suite qu'il avait eu l'enfance de Mozart et la vieillesse du Titien, qui est une formule que je trouve assez jolie.
L'exposition révèle un compositeur touchant qui écrit enfant dans son journal « J'ai grogné pour une audition, mère m'a mise à la porte car je jouais trop vite ». Exposé juste à côté, le premier adagio composé à l'âge de 3 ans. D'autres pépites sont savoureuses comme cette carte de visite de Marcel Proust adressée à Saint-Saëns. Le musicien inspira d'ailleurs l'auteur pour l'un des personnages de la recherche, le baron de Charlus.
C'est un caractère pas commun. Il disait lui-même « Je n'ai pas mauvais caractère, j'ai du caractère ». Mais c'est ce que disent un peu précisément les gens qui ont mauvais caractère. Il avait le trac, il l'a eu toute sa vie. Il n'aimait pas le contact avec le public et encore moins avec les journalistes. Il n'a jamais voulu non plus donner, sauf exception, de cours de composition ou de cours de piano parce que justement, il s'emportait, les leçons se terminait mal, les élèves se faisaient houspiller, ils n'avaient, je pense, pas beaucoup de patience.
La rétrospective met aussi en valeur les œuvres lyriques plus méconnues de Saint-Saëns, mais aussi son côté voyageur, des séjours aux quatre coins du monde qui lui permettent d'échapper un peu à sa célébrité en France, tellement pesante qu'il doit utiliser un pseudonyme lors de ses déplacements. Saint-Saëns devient Charles Sannois. Marie-Gabrielle Sauré.
Il y a eu un épisode qui a passionné les foules en 1890. En fait, Saint-Saëns n'a plus de famille. Il a perdu sa mère aussi récemment. Il s'est séparé de son épouse. Ses deux enfants sont morts. Il est absolument désespéré et il va partir sans laisser d'adresse. Il disparaît. Mais comme c'est évidemment quelqu'un de très connu, membre de l'Institut, etc., évidemment, les journaux s'affolent et il va y avoir une véritable campagne de presse avec des rubriques dans les journaux comme le Matin, chercher Saint-Saëns, disparition d'un compositeur, toutes les hypothèses les plus farfelues vont être échafaudées.
Saint-Saëns réserve encore bien des surprises sur ses 600 œuvres musicales écrites. Quelques-unes n'ont pas encore été enregistrées.
Après sa mort, il faut bien dire, après son centenaire de 1935, il a subi une période de purgatoire, précisément au moment où l'industrie du disque démarrait. Donc il y a encore beaucoup d'œuvres qui n'ont pas été enregistrées, notamment des ouvrages lyriques, parce que tout simplement il n'était plus joué.
Il y a 100 ans, le pianiste foudroyant, comme le nommait Berlioz, disparaît. La France le saluera une dernière fois lors de funérailles grandioses à la Madeleine, l'église où il fut organiste pendant plus de 20 ans.
Un reportage de Marie Jiquel à réécouter, retrouvé sur notre site francemusique.fr. Quant à l'exposition, elle est à voir jusqu'au 7 octobre à l'Opéra de Paris.
À réécouter sur francemusique.fr.